Il a joué 318 matchs avec le Paris Saint-Germain, remporté 2 Coupes de France, 1 Coupe de la Ligue, 1 Trophée des Champions et 1 titre de champion de France. Mais il a aussi remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe 1996. Cette semaine, nous recevons le mythique gardien rouge et bleu Bernard Lama. Bernard Lama, bienvenue dans Histoire de Parisien. On va fouiller un petit peu dans tes souvenirs, Bernard, et on va commencer par les souvenirs les plus anciens. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as entendu parler du Paris Saint-Germain ?
La première fois, exactement non. Mais Paris Saint-Germain est dans ma tête depuis que je suis tout jeune. Parce que, en fait, le club est plus jeune que moi. Donc... et mes premiers souvenirs datent effectivement quand j'étais gamin en Guyane, où j'ai eu un poster, j'avais des posters des fois des équipes européennes, bon, beaucoup plus des équipes brésiliennes, mais aussi des équipes européennes, et j'avais eu le poster du Paris Saint-Germain, donc c'est au début des années 70.
Quand le club était tout jeune.
Quand le club venait de naître, donc... j'avais été marqué, quoi, parce qu'il y avait quand même beaucoup de blacks dans l'équipe, quoi, à l'époque, quoi. Et des Antillais, des Africains, donc j'étais assez... Bon, enfin, voilà, ça m'avait...
Interpellé.
Ça m'avait interpellé, quoi, en fait.
Tu as découvert en partie le football, ou en tout cas une certaine forme de football, pendant les vacances au Brésil. C'est un football qui t'a inspiré, qui t'a marqué?
Alors, en fait, oui, j'ai grandi près de la plage... et puis à partir de 1971, ma famille s'est déplacée, quoi, pratiquement pendant 10 ans, quoi, en fait, jusqu'à ce que je parte après. Tous les 2 ans, on allait au Brésil. Et ça venait juste derrière la Coupe du Monde 70, quoi.
Magnifique. En fait.
Donc, j'ai été bercé par ce football-là et j'ai pu voir des matchs au Maracana, en fait, dans tous les grands stades brésiliens, en fait. En fait, c'était ça mon programme quand on allait là-bas.
Quoi, c'est beau.
Fait. Ah ouais, c'était de regarder quand est-ce qu'il y a match, si on peut y aller, d'aller au stade, de revoir le match à la télé. Bon, puis après d'aller sur la plage et puis bon, de faire ce que je faisais. Quoi.
Justement, tu jouais beaucoup au football sur la plage. Ça fait de toi un footballeur différent, parce que quand on grandit plus sur la plage que sur le béton armé.
Alors, oui, en fait, j'ai grandi à une époque en Guyane où, comment dirais-je, et à une époque tout court où, bon, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas tout ça. Hein, donc, nos jeux étaient très, comment dirais-je, très... notre terrain de jeu, c'était la nature, en fait. Donc, que ce soit la plage ou que ce soit la forêt, quoi. Donc, ça nous a permis de développer toute notre coordination, notre motricité et nos facteurs cognitifs. Et on voit bien la différence aujourd'hui, quoi. Parce que ça, ce sont des choses que l'on doit apprendre aux enfants d'aujourd'hui, quoi. Alors que nous...
Pour toi, c'était naturel.
Ça se fait naturellement. Apprendre à grimper aux arbres. On m'a pas appris à grimper aux arbres, aux manguiers, pour aller chercher des mangues, ou tel autre fruit, ou tel autre fruit. On m'a pas appris à nager. Donc, quand je suis arrivé au collège et qu'il fallait aller à la piscine, je savais déjà nager. Ces choses-là se sont faites naturellement. Parce que, en fait, c'était mon quotidien, hein, et tous les jours sur la plage.
Et toujours avec un ballon ?
Toujours. Toujours. C'est avec les camarades, c'était... Bon, voilà, c'est qu'il y avait... En fait, on n'avait pas d'autres jeux non plus. Hein, donc, on faisait énormément de sports, les sports de balle. Le football, le basket, le handball... C'était...
T'étais bon dans tous les trois ?
Moins dans le basket. J'étais moins intéressé par le basket à l'époque. Donc football, handball, volley, je pouvais me débrouiller. On faisait beaucoup de volley sur la plage aussi.
En fait, à la brésilienne.
Voilà, quoi. Donc, et on avait cette nature, en fait, qui nous permettait de nous développer physiquement sans avoir à subir vraiment un travail intense en salle de muscu. Bon, ça se faisait naturellement dans le sable, dans l'eau. Je crois qu'il n'y a pas mieux.
Tu devais quand même avoir des qualités particulières pour être sélectionné en équipe de France junior alors que tu joues en Guyane.
Ben justement, ce sont toutes ces qualités-là qui, pendant des années, ont mûri, je vais dire, jusqu'à l'âge de 16 ans, et en fait qui ont évolué avec ma croissance aussi. Une fois que j'ai atteint une certaine taille, donc j'ai pu exprimer. Bon, en fait, ma chance, c'est que j'ai joué très jeune aussi, à 16 ans, avec des seniors, avec des grands, avec une très bonne équipe qui dominait. Qui était dominante en fait dans toute la Caraïbe, donc ça aussi ça a été très formateur, mais en même temps j'étais pas perdu dans ça quoi en ah fait ouais. quoi j'étais pas perdu parce que c'est ce que j'avais en tête, c'est ce que je voulais réaliser, et en fait c'est comme une programmation en fait,
une programmation un peu contre la volonté de ton père.
Pas dans un premier temps, puisque j'étais en Guyane, tranquille, voilà, ils pouvaient me surveiller, j'allais au lycée, machin, tout ça. Mais en fait, mon père ne voyait pas le football comme... ne voyait pas me faire carrière dans le football.
Et toi, tu t'imaginais tout de suite professionnel?
Ah bah, moi,
depuis petit?
C'était ça mon objectif. J'ai grandi avec ça en tête, en fait. Et c'est devenu encore plus concret quand j'ai eu la chance d'être sélectionné en équipe de France junior à l'époque. Donc, ça a attiré l'attention de certains clubs sur moi. Et donc, quand ça a été le moment, ben, il y en a un d'entre eux qui en a profité.
Tu as 18 ans quand tu arrives en métropole. Ce n'est pas vraiment un parcours linéaire, ce que tu connais quand tu arrives ici en métropole. Déjà, tu jouais gardien sans gants.
En fait, un jour, ce qui s'est passé, c'est que... bon, déjà, en Guyane, je n'avais pas de gants au départ. Hein, on n'en avait pas.
Même dans les matchs officiels?
Y compris dans les matchs officiels. Donc, j'ai grandi sur la plage. Donc, à main nue, c'est un très bon exercice avec le sable, l'eau. Donc, quand tu arrives à capter un ballon comme ça sur la plage, derrière, tu n'as pas de problème. donc, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Je faisais du handball aussi, donc ballon plus petit tout ça. Ouais. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, la coordination, la motricité, les facteurs cognitifs. Si on développe ça, derrière, il y a moins de difficultés.
Et donc, ça a été étrange quand il a fallu que tu mettes des gants.
Il a fallu s'habituer. Bon, après, donc quand je suis arrivé ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, un jour, j'étais à Lille. Et donc, j'avais les gants, mais on était en été et il peut faire chaud à Lille, en plein été. Donc, il faisait très chaud. J'avais chaud aux mains, j'ai enlevé les gants. J'ai enlevé les gants et j'ai retrouvé mes sensations naturelles, quoi, en fait. Et aussi, j'ai compris à cette époque-là aussi que c'était un bon plan marketing, quoi. En fait. Donc je le faisais pas tout le temps, pas forcément pendant tout le match, parce que des fois tu jouais en fin d'après-midi et puis après tu passes en soirée et là tu as l'humidité, tu as la rosée qui arrive et tout ça, donc le ballon il est un peu plus glissant, donc à la mi-temps je remettais les gants, donc il y avait les deux quoi, en fait il y avait mais je m'entraînais assez souvent sans les gants aussi quoi.
Donc là, tu as parlé de Lille, on ne va pas énumérer tous les clubs où tu es passé, je pense. Brest et Lens, ouais. Lens où tu es resté une seule année, parce que c'est de Lens.
Oui, mais Brest aussi, Metz aussi. En fait, j'ai fait trois clubs où je suis passé qu'une seule saison.
Mais il y a un endroit où tu vas te poser, puisque tu signes un contrat de 3 ans, c'est au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, quand tu pars à Lens pour une saison, tu sais déjà... quel est ton objectif?
Alors, ça s'est passé au moment où Canal+ reprenait le club.
91.
Et donc, je pense que quand ils ont fait le point sur leur effectif après-derrière et qu'ils ont vu que Joël arrivait en fin de carrière, donc ils ont anticipé et ils m'ont proposé cette solution-là qui était d'attendre une année. Que Joël puisse passer de l'autre côté. Moi, ça me posait pas vraiment de problème parce qu'à cette époque-là aussi, c'était compliqué d'avoir une place de gardien dans les 3 ou 4 meilleurs clubs du pays. Ça avait Etori, il a joué jusqu'à je sais pas quel âge.
C'est
donc
vrai.
Tu pouvais toujours attendre derrière. Tous les ans, il m'appelait Monaco, quoi. Tous les ans, quoi, à l'époque. Bianchieri, tous les ans. Mais ils l'ont jamais. Il a jamais lâché la place. Donc, fallait pas compter. Donc, et c'est pour ça que je signais un an. J'ai signé un an à Metz, un an à Brest. un an à Lens où, effectivement, je savais que derrière, fallait quand même que je sois quand même un petit peu bon à Lens quand même, oui, pour confirmer. Et qu'après, j'ai eu donc les propositions de Marseille à ce moment-là, après Lens, et du Paris Saint-Germain. J'ai confirmé avec le Paris Saint-Germain.
Quand tu arrives au Paris Saint-Germain, que tu débutes, ça se passe comment? Parce que tu... Alors, je ne vais pas dire que tu prends la place de Joël Batz, mais Joël Batz, c'était une légende dans le club. Toi, tu arrives, mm-hmm, être titulaire à sa place. Ça s'est passé. Comment les gens l'ont perçu et comment toi, tu l'as perçu?
À mon niveau, ça s'est passé, je dirais, naturellement.
Mm-hmm. On a l'impression que tu étais programmé, que tu t'es, oui, programmé.
J'avais 28 ans quand même quand je suis arrivé là au PSG. J'avais un vécu, j'avais de l'expérience. J'étais conscient de certaines choses et que je n'étais pas à ma place. Donc pour moi, ça n'a pas posé de problème. Je n'avais pas de... d'une certaine manière, je n'avais pas de preuves à faire. Mm-hmm. J'avais simplement à montrer que j'étais au niveau
qu'on
attendait de moi, que ce que je faisais dans les autres clubs, je pouvais le répéter au Paris Saint-Germain et grandir encore plus. Donc... À mon niveau, ça n'a pas posé de gros problèmes. Avec Joël, ça s'est super bien passé aussi. On a tout de suite trouvé la complicité. Avec les autres gardiens qui étaient là aussi. Donc, il y a toujours une bonne atmosphère de travail. Et puis, on se challengeait aussi, parce que Joël a toujours été très, très joueur, très compétiteur aussi.
Et puis,
il venait d'arrêter aussi. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Un peu moins bien avec une partie du public, mm-hmm, qui était justement, dont Joël était l'idole, quoi. Mais voilà, et après, ma relation s'est développée au fur et à mesure avec le club, avec le public, avec la ville et avec la région, quoi, en fait.
Tu arrives dans un club qui a de grosses ambitions, tu l'as dit, Canal+ a racheté le Paris Saint-Germain la saison d'avant, et le Paris Saint-Germain a fini troisième avant que tu arrives. Vous êtes l'équipe à battre, en fait. Mais on n'a pas le sentiment que le mot pression, ce soit quelque chose qui fasse beaucoup partie de ton vocabulaire.
Je ne sais pas si on était l'équipe à battre, hein, parce qu'il y avait Marseille à l'époque.
C'est vrai, il y avait Marseille.
Donc, je pense qu'on était plus l'équipe qui montait, qui arrivait, mm-hmm, que l'équipe à battre. Après, il y a le côté médiatique qui est différent. On était peut-être l'équipe de Canal.
Oui, c'est ça aussi.
Mais pas forcément l'équipe à battre. À l'époque, c'était...
C'était une équipe c'était aussi
Marseille,
avec beaucoup d'investissements.
Mais
pour
Marseille
aussi.
Vu les investissements qui étaient faits, les joueurs qui arrivaient, les Brésiliens, les internationaux français ou futurs internationaux français, tout ça. Donc, ça, c'était clinquant, quoi. Il n'y avait pas de souci. On était la hype du moment, quoi, on va dire.
Ah,
quoi. C'était c'est une période intéressante. Et comme je disais, moi, je suis arrivé là. En fait, c'était juste ce que j'attendais, quoi. En fait, c'était le théâtre que j'attendais, mm-hmm, la scène, en fait, plus exactement, que j'attendais. Quand tu es à Paris,
tu es
beaucoup plus exposé. Tu joues la Coupe d'Europe, tu joues à un autre niveau, tu joues le haut du classement. Moi, j'ai toujours joué dans des clubs avant le PSG qui jouaient la deuxième partie du, oui, classement. Donc, c'est là que je me suis fait remarquer aussi. Donc, je ne vais pas m'en plaindre.
Bien sûr, bien sûr.
Mais en même temps, à un moment donné, tu as envie de jouer pour la gagne, quoi, en fait.
Un titre, quoi.
Voilà. Et moi, c'est ce que je suis venu chercher à Paris. Et je suis venu chercher l'équipe nationale aussi. Il fallait que je passe par un grand club pour voir, alors que je devais déjà être sélectionné, mais je ne l'étais pas. Je suis arrivé à Paris, je n'ai pas fait un match officiel, j'étais en sélection.
Oui, c'était...
C'était réglé, quoi. Et 6 mois après, j'étais titulaire. Donc, parce que, tout le monde a vu que le niveau que j'avais... dans les clubs moyens, j'ai su le conserver et maintenir
une simple confirmation
au plus haut niveau, quoi.
Comment est-ce qu'on gère la vie à Paris? Parce que c'est différent des clubs que tu as vécu, dans lesquels tu as joué jusque-là. La ville est différente, la pression est différente, notamment médiatique.
La pression, je l'ai toujours eue, mm-hmm, ou certaines formes de pression, en tous les cas. Quand tu as un père qui est chirurgien, donc et qui veut que ses enfants réussissent aussi, donc dans, à travers les études et tout ça, donc c'est aussi une pression. Donc j'ai toujours su jouer avec ça, et j'ai toujours su vivre avec cette pression-là familiale, je dirais. Donc j'ai été le premier gardien noir français à jouer en première division. Donc cette pression.
C'est pas anodin en fait.
Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est bon. Enfin, j'ai grandi dans un environnement aussi qui m'a préparé à tout ça, en fait. Donc, comme je te dis, mon père était chirurgien. J'ai eu l'occasion d'aller voir des opérations avec lui à l'hôpital. Donc, il était maire aussi. Donc
de les vivre. Responsabilités, tu sais ce que c'est.
Voilà, quoi. Donc, et dans ma carrière, dans les clubs où j'ai évolué, j'ai souvent été l'un des cadres, voire le capitaine. Donc, c'est pas à Paris que ça allait changer. En fait, c'est dans ma nature aussi de prendre certaines responsabilités. Et donc, et les gens qui prennent des responsabilités en général sont des gens qui sont habitués à gérer la pression, quoi, qui ont une capacité à gérer plus facilement que d'autres la pression. Donc, voilà, j'avais la pression que moi je me mettais aussi. En fait, moi, ma pression, c'était. En fait, c'est clair. Mon ambition, ça a toujours été de gagner la Coupe du Monde. Donc, pour gagner la Coupe du Monde, ben, il faut franchir des étapes et ces étapes-là t'amènent vers
ça, c'est vers le top. Le Mondial 70.
Ça, c'est le Mondial. Ben oui, puisque ça, c'est
ces souvenirs d'enfance, ils sont marqués et ouais. C'est eux qui définissent quasiment une carrière, en
ouais,
fait.
Oui, totalement, quoi. Pas une carrière, une vie.
Une parce vie. Que
c'est ouais, une vie.
C'est une vie.
Quand tu rentres dans le football, c'est ta vie. Et quand tu es jeune. Tu dédies déjà ta vie à ça. Bon, ok, tu vas à l'école, machin, mais tu y vas parce que c'est le quotidien et que c'est un passage obligatoire. Mais c'est pas ça ton ambition, c'est pas ça ton rêve, c'est pas ça ta motivation. Donc à partir du moment où tu l'as après, c'est ce que, enfin moi j'ai eu la chance. Je peux vraiment dire la chance parce que la Guyane, c'était loin à l'époque.
Oui, c'est loin.
C'est toujours loin aujourd'hui, mais à l'époque, il y a 40 ans, c'était.
On savait l'autre pas bout où du c'était, monde, quoi.
On savait pas où c'était. Et quand je suis arrivé ici à 18 ans, on me dit ah, d'où tu viens à la Guyane? Ah, c'est où?
Tu vois le Brésil, c'est à côté.
Bon, donc c'est tout ça qu'il fallait appréhender. C'est avec tout ça que j'ai grandi et tout ça.
Et donc, quand tu arrives au Paris Saint-Germain, la première saison, un Real Madrid-Paris Saint-Germain, c'est pas ça qui va t'impressionner?
Non, j'étais pas impressionné, mais comment je vais dire, c'est des choses que j'avais jamais vécues.
Mm-hmm.
Donc,
ça reste nouveau.
Donc, c'était des choses nouvelles. Mais pour lesquels je m'étais préparé pendant des années, en fait. Donc, quand ça arrive, je suis prêt à assumer ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en dehors aussi, quoi, en fait.
Et tu analysais déjà très bien, parce que si je pense à ce Real Paris Saint-Germain qui se passe pas forcément bien, qui se passe d'ailleurs pas bien à Madrid, on a l'impression qu'à peine le match terminé, tu es conscient de ce que vous pouvez faire. Comme si c'était... Ouais. Oui, on a trébuché, mais on sait où on va.
Oui, parce qu'en plus, sur ce match-là, il y a des incidents, quoi.
Oui.
Il y a des choses qui me dérangent fortement et on est en partie lésé par l'arbitrage et lésé par notre manque d'expérience aussi. Et donc, ça me fait encaisser notamment un but là. Ça m'énerve, quoi, en fait. Parce que, bon, à l'arrivée, c'est moi qui suis coupable, mais si je suis coupable, c'est qu'il y a des...
Juste
des...
pour rappeler, alors, tu essaies de demander à...
Non, je n'essaie pas de demander. Je vois ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a le frappeur qui est là-bas avec son ballon et qui a un partenaire qui est tout seul dans les 6 mètres, quoi, et qui n'est pas marqué, quoi. En fait, donc, et je vois qu'il va lui envoyer le ballon. Donc, j'anticipe sur cette frappe-là, et lui me voit anticiper, l'envoie derrière moi au deuxième poteau. Sauf qu'au deuxième poteau, il n'y a pas de marquage non plus, quoi. Donc, mais c'est moi qui prends tout dans la tête. Mais c'est normal. Je n'ai pas de. Je suis à un poste.
Oui, tu ne te caches pas derrière.
Voilà, quoi. On dit que, machin. Mais moi, ça m'a pas. En fait, ce but-là ne m'a pas posé plus de problèmes que ça, quoi. En fait, on a beaucoup parlé dans, la presse en disant, bon, j'étais le coupable. Bon, il n'y a pas de souci, je suis le coupable. OK, il n'y a pas de problème. Ça fait partie
mais
du truc.
On a quand même le sentiment que même après ce match-là.
Après, oui. Mais après, on est en colère, hein, en fait, hein, parce que on a vraiment l'impression d'être passé à côté de quelque chose.
Oui.
Et en fait, ce match-là nous a décomplexé par rapport au Real.
C'est magnifique, ouais.
On était le petit, hein, quand même.
Ah bah oui, c'était.
Hein, on débarque là. Pour la plupart d'entre nous, on n'a jamais joué à ce niveau-là, quoi. Bon, et on voit bien ce que le Real fait aujourd'hui.
Il faut du temps et il faut de l'expérience.
Voilà, donc il y a toute l'histoire qui pèse, le stade, machin, ceci, cela. Bon.
Mais le match retour ?
Le match retour, c'est le match retour. Et puis en plus, certains d'entre eux s'étaient permis de nous chambrer, quoi.
Ah, il fallait
pas. Ça, c'est pas passé du tout. Les prosénéki et tout ça, là, ça n'est pas passé. Donc, pour le match retour, J'ai convoqué tout le monde dans ma chambre, quoi, en fait. J'ai convoqué tout le monde dans ma chambre parce que nous, on avait analysé de notre côté, machin, ceci, cela. Et on voulait un changement au niveau de l'équipe. Donc, on en a parlé entre nous. On a fait passer le message au coach. On voulait jouer avec un attaquant supplémentaire.
Mm-hmm.
Et puis, en même temps, on s'est aussi... comment je vais dire ça ? On s'est aussi automotivé, en fait. On a pris certains exemples et tout ça. Bon. Donc, et puis le lendemain, on a fait ce qu'on a fait, en fait.
Vous vous qualifiez, vous êtes après éliminé par la Juve en demi-finale. Mais là, on parle de quart de finale de Coupe d'Europe. Donc c'était déjà, c'était toi une découverte et tu découvres tout de suite le plus haut niveau.
Ben ouais, on est arrivé.
Et ça se passe bien en championnat aussi, puisque vous finissez deuxième. C'est une première bonne saison. Mais c'est marrant.
C'est pas le fameux championnat où il y a l'histoire au MVA, non ? C'est pas celui-là ? C'est pas ce championnat-là ?
Je crois que c'est ce championnat-là.
Donc ça se passe pas si bien que ça, quoi.
92-93.
Ça se passe pas si bien que ça, parce qu'à l'arrivée, on n'est pas champion.
Oui, vous n'êtes pas champion.
On aurait dû l'être. Donc j'aurais pas eu qu'un seul titre. Donc, non, c'était une période très particulière, hein, pas forcément évidente à gérer pour nous avec tout ce qui se passait. Mm-hmm. Voilà, quoi. Moi, je le vois comme ça, en tous les cas. Quoi.
Mais vous gagnez quand même la Coupe de France.
Ben,
première
même,
année, un trophée. C'est non, pas ce que tu
bien.
Attendais.
Non, c'est bien parce que la Coupe de France, pour nous, Antillais-Guyanais, c'est un fantasme.
Uh-huh.
J'ai eu l'occasion de la jouer en Guyane, donc de faire les finales régionales et tout ça. Donc, il y avait le fantasme du voyage aussi, donc
oui,
de pouvoir voyager et de venir jouer ici. Donc, et gagner la première, ouais, c'était pour moi, c'était important. Et puis, en fait, moi, j'étais au PSG là pour gagner des titres. Hein, donc,
ah ben oui, donc en voilà.
Donc, au moins une coupe, c'est déjà ça, deuxième du championnat.
Bon, on se dit que ça ouvre l'armoire des trophées, ça en fait déjà un.
Exactement. Quoi.
Saison 93-94, c'est toujours Arthur Georges, l'entraîneur. Qui est-ce qui vous entraîne, vous, les gardiens ?
C'est Joël Batz, toujours.
Toujours Joël ?
Ouais.
Et là, tout se passe bien. Et
non, il y a eu un changement parce que la première année, c'était Richard Dutruel qui était deuxième gardien. Il a été prêté, je crois, il est à Châteauroux, me semble. Et là, on a fait venir Luc Borelli. Donc là, ça a changé un peu l'équipe, mais ça l'a renforcé hein, en même temps aussi. Et on était toujours non, avec Joël et puis Vincent Fernandez à l'époque.
D'ailleurs, l'équipe globalement est stable. Il y a l'arrivée de Rai là, au mois de janvier. C'est une équipe très brésilienne.
Ouais.
Enfin, c'est donc brésilienne. Un football qui...
Il y a trois Brésiliens.
Hein, mais ça suffit pour un sujet.
Elle est brésilienne, bretonne, africaine. Bon, c'est une équipe internationale, quoi, en fait, qui préfigure ce qui se passe aujourd'hui. Quoi.
Et c'est un cadre dans lequel tu te sens bien, ce mélange de cultures
Alors, ce qu'il faut savoir, l'anecdote dans tout ça, c'est que il y a Georges. Il y a Georges Ouéa. Et en fait, il se passe qu'avant que j'arrive au PSG, donc l'année où j'ai signé, En fait, Monaco fait une tournée anti-Guyane. Mm-hmm. En fait, c'est juste avant... Enfin, je viens de signer. Et je me souviens être passé au Camp des Loges pour voir un peu certaines choses, pour les histoires de maison, oui, et tout ça. Et donc, partir le lendemain pour aller en Guyane, pour jouer contre Monaco avec la sélection de la Guyane. Et à Monaco, il y a Luc Sonor, il y a Roger Mendy, il y a Georges Weah, quoi. Et en fait, après le match, je passe à l'hôtel, à leur hôtel, et je trouve Georges à la réception, et je lui dis, allez, viens avec moi, on va faire un tour, tout ça. Et puis on est parti faire un tour dans Cayenne. C'est là qu'on a fait connaissance, à marcher la main dans la main, à discuter, à échanger, à rigoler.
C'est magnifique.
Et puis à se dire, ah ouais, ça serait bien si on jouait dans la même équipe, machin. Bon, là, je viens à Paris, machin, tout ça. Et après, j'entends l'histoire Klinsmann, Weah, machin, tout ça. Je dis, ah. Donc avec Georges, on est resté 3 ans dans la chambre ensemble, quoi. Le temps qu'il était à Paris, on était ensemble. Donc c'est comme ça que notre relation a démarré, quoi.
Vous aviez la même vision du football ?
Ah ouais, je pense que nous, on est des gamins qui avons rêvé, qui sont arrivés au plus haut niveau, tout ça. Et sur le terrain, en tous les cas, Georges, c'était un joueur total, quoi. C'est-à-dire qu'il pouvait autant être milieu de terrain, défenseur, gardien, tout ça. Donc nous, on avait des codes sur le terrain et une grande complicité qui fait que on gérait tout le terrain, quoi. Parce que c'était lui tout devant et moi j'étais tout derrière, quoi. Donc on devait gérer tout ce qui se passait au milieu, quoi, en fait. Donc on était plutôt complices, quoi, à ce niveau-là, quoi.
Avec la victoire de l'année précédente en Coupe de France, vous rejouez la Coupe d'Europe. Cette fois, c'est la Coupe des Coupes. Mm-hmm. Et vous retrouvez le Real en quart. Mm-hmm. C'est écrit, cette histoire de toujours retrouver le Real en quart.
Oui, enfin, les deux fois, on a gagné.
Oui.
Enfin, on les a éliminés.
Vous les avez éliminés. Vous n'avez pas toujours gagné, mais là, vous gagnez à Madrid 1-0.
Mm. Ouais. Ben, on avait leur feuille, comme on dit chez nous, quoi. Oui, parce que en fait, on était décomplexés. Là, maintenant, on n'avait plus d'eux. Et eux, ils avaient une génération qui était sur le déclin, enfin, oui, qui était sur la fin. Et nous, c'était l'inverse. Donc, on avait pris l'ascendant, psychologique, et ils nous faisaient plus peur. Et donc voilà, je pense qu'on était au-dessus d'eux à ce moment-là, quoi. En fait.
Et est-ce que tu te souviens comment ça se passe en championnat?
Ouais, c'est pas l'année où on avait 13 points d'avance et puis on finit par perdre.
Cette année-là, vous gagnez là. Cette année.
Ah non, 93-94. Oui. Non, c'est l'année où on est champion, effectivement. Ouais. Mais bon, j'ai pas de souvenir particulier.
Alors, le
PSG, de toute façon, c'était une équipe. Comment je vais dire ça, quoi. Bon, je pense que si on avait eu un peu plus de temps pour travailler. Mm-hmm. Et un meilleur dialogue avec notre entraîneur, on aurait fait beaucoup plus. On aurait fait de meilleures choses, quoi, en fait. Avec le recul, moi, je vois ce que Arthur Georges voulait faire, comment il voulait, tout ça. Mais dans la communication,
dans l'échange, c'était pas si
évident que ça, quoi. C'était pas si évident que ça. Et heureusement qu'on était quand même de grands garçons, avec quand même pas mal d'internationaux, donc des gars qui étaient capables de gérer ce qu'ils avaient à gérer sur le terrain, quoi.
Ah oui, c'était solide, c'était, ouais, une équipe, c'était pas une équipe de jeunes, c'était...
Voilà, et qui manquait encore 1-2 ans, d'accord, à compléter l'effectif, son état, pour pouvoir aller un petit peu plus loin, quoi.
On va reprendre sur la Coupe d'Europe, demi-finale contre Arsenal. Vous allez loin en Coupe d'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas une préoccupation à un moment où vous vous dites, si on continue à aller loin, on va laisser des plumes en Coupe d'Europe, en championnat ? Ce n'est pas du tout des réflexions que vous vous faites ?
On est là, on joue les matchs. Hein. Moi, j'étais là pour ça, pour jouer ce genre de match-là, hein, quoi. Donc, non, on ne se pose pas de questions.
Vous finissez champion ? Mais quelque chose peut-être qui tient aussi à cœur, vous êtes aussi la meilleure défense. Mmh.
Ça a toujours été, comment j'ai expliqué, un de mes challenges, le challenge personnel.
Bien sûr.
J'ai beaucoup joué dans des clubs où justement prendre le moins de buts était important. Quand tu es un club qui joue dans la deuxième partie du classement, et quand tu es dans la première partie, c'est aussi important parce que voilà, ça te permet de gagner des places, d'aller un peu plus haut. Donc moi, ça a toujours été mon challenge, défendre mon but. En fait, c'est ça mon... C'est ça mon métier, c'était ça mon métier, quoi. C'était empêcher le ballon de rentrer dans le but.
Justement, ça ne fait pas de toi un joueur de foot particulier ? Parce qu'on a, c'est quelque chose qui revient souvent d'opposer les gardiens, de dire que les gardiens, ils sont à part, ils sont... alors que vous n'êtes pas à part, puisque défendre un but, c'est un travail personnel quand il s'agit de la cage.
Mais c'est un travail collectif, avant tout. Bon, on est le dernier défenseur.
Oui.
Premier attaquant. Donc, et comme je le dis, essentiel dans le football, quoi. Sans gardien, il n'y a pas de match. Tu ne peux même pas commencer le match. Donc, il y en a deux comme ça. C'est le gardien et c'est l'arbitre. Bon, quand tu as compris l'importance de ton rôle, à un moment donné, c'est un peu comme le quarterback avec le football américain. C'est toi qui es censé gérer, voir ce qui se passe, machin, tu es le dernier, tout ça. Donc, non, c'est une position hyper importante, qui est stratégique, en fait.
Et il n'y a pas de la solitude quand on est gardien ? Vous vous entraînez à part ?
On s'entraîne à part, mais pas seul.
Non, pas seul.
Donc, le côté solitude, le côté solitude, tu l'as quand tu prends un but à la con. et que c'est toi le responsable.
Tu penses à quelque chose en particulier ?
Là, t'es tout seul. Bon, en fait, c'est quand tu encaisses un but, c'est toujours le gardien qui encaisse. C'est pas l'équipe.
Non.
Donc, toi, tu as toujours le sentiment de culpabilité. Même si tu as fait tout ce qu'il fallait pour que ça ne rentre pas, mais tu auras toujours ce sentiment. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour... Les autres joueurs n'ont pas ce sentiment-là, quoi. Le public n'a pas ce sentiment-là. Donc, c'est ça qui est difficile pour le gardien de but. Mais si tu as tout donné, tu n'as pas à avoir de regrets, Bon, voilà, le jeu ne demande que faute, comme on dit. Et puis, bon, l'adversaire, il est là, il s'entraîne pendant des heures, comme toi-même, pour marquer le but. Hein. Donc, de temps en temps, il faut bien accepter d'en prendre.
Hein. Et qu'on te définisse comme un chat, ça t'amusait ça...
Non, c'était...
C'est lié aussi à ta démarche à...
C'est lié à mon style, à la façon dont j'occupais l'espace, en fait. En fait,
il y avait beaucoup de... Alors, ça pourrait être de la danse, comme une liane. Je pense à la capoeira, je pense à ces gestes qui sont...
C'est une... Pour moi, être gardien de but, c'est... Comment dirais-je ? Comment je vais expliquer ça ? C'est plein de choses. Parce que tu as... Quand on regarde bien, c'est le joueur qui a le plus d'espace à sa disposition sur le terrain. Où il peut faire globalement, entre guillemets, hein, ce qu'il veut, ce qu'il peut. Ouais. Où il peut remplir sa tâche, quoi, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas combien de mètres carrés ça fait, une surface de réparation. Tu regardes, il faut me donner le chiffre. Bon, alors maintenant, après, c'est ta maison. Hein, quoi ? Qu'est-ce que tu fais dans ta maison, quoi ? Donc moi, c'était ça mon truc. C'était être... Et donc, d'abord, il fallait que je sois le maître de ma maison. Donc ça veut dire que les balles aériennes... que tel ballon, telle position, fallait que je maîtrise, fallait maîtriser tout ça, quoi. Et surtout dans le domaine aérien, où là, c'est là que tu amènes une vraie valeur ajoutée, c'est là que tu soulages ton équipe, c'est là que tu aides ton équipe, c'est là que tu élimines l'équipe adverse.
Parce que, et en plus, c'est beau.
En plus, c'est beau, quoi. Donc, que demande le peuple ?
Ou alors, est-ce que c'est une de tes plus belles saisons, le titre de champion de France ? Être champion de France ?
C'était un aboutissement, encore une fois. Je suis venu là pour gagner des titres, pour aller plus loin, pour aller en équipe nationale.
Parce que ça fait beaucoup d'aboutissements. Tu joues en équipe de France, tu es champion de France.
Et je ne fais pas la Coupe du Monde, on est éliminé.
Oui.
Donc, 93-94, voilà. Hein, c'est, OK, on est champion, mais je ne suis pas à la Coupe du Monde. J'ai 30 ans. C'est-à-dire que c'est presque terminé pour moi par rapport à...
Oui, après un gardien...
Bon, oui, mais...
Tu es quand même désigné joueur français de l'année. Je ne dis pas gardien français de l'année, tu es joueur français de l'année.
Ça, c'est ma fierté, ça. Parce que c'est un titre individuel dans le contexte collectif. Celui d'avant moi s'appelait Georges Carnus. Celui d'après, il n'a toujours pas de nom.
Oui.
Donc, ça veut dire quelque chose, quoi. c'est pour ça que je dis ça, ce titre-là, c'est ma fierté, quoi. Ouais, parce que j'ai été le meilleur joueur français.
Quand on te l'annonce, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, c'est une sacrée récompense, et où tu repenses à tous les efforts, à tous les, genre, je sais pas si on peut parler de sacrifice, mais en tout cas, si sacrifice, parce que tu pars loin de chez toi pour jouer au foot. Ou est-ce que c'est, y a pas un moment où tu te dis quand même j'ai bien bossé?
Si, il y a 93, 94,
oui, non, c'est pas, on n'a pas le cœur,
machin, tout ça. C'est plus après, c'est peut-être plus 98, ou bon, quel que soit tout ce qui s'est passé, ou machin, tout ça, ou voilà, t'es sur le toit du monde, quoi. T'as bossé pour ça. Et j'ai
parce
mis 35
ans. Parce que toi, t'as le droit de la
ans.
Toucher, la Coupe du Monde. Toi, t'as le droit. Moi,
exactement.
J'ai pas le droit, mais toi, t'as le droit.
Voilà. Mais surtout, comment dirais-je, tu as atteint ton rêve. Ton rêve qui est devenu une ambition entre-temps, mais tu l'as atteint. T'as plus besoin de rien du tout.
Et pourtant, on s'arrête pas là. On revient à la saison 94-95. C'est Luis Fernandez, l'entraîneur. Le cœur de l'équipe reste le même. Est-ce que ça change beaucoup pour toi, que ce soit Luis Fernandez, l'entraîneur? C'est pas la même méthode.
C'est pas du tout la même méthode. Donc pour moi, au niveau du terrain, ça change rien. Hein.
Oui.
C'est ne pas prendre de but. Hein. C'est
oui,
ça le
c'est
rôle
tout,
du gardien.
C'est,
donc, c'est comme ça qu'on te juge. Donc... après, pour l'environnement, pour l'équipe, ça change. Ça change beaucoup de choses parce que c'est plus du tout le même management. Et ça devient un petit peu compliqué par moment, quoi.
Et vous jouez la Ligue des Champions. C'est plus les mêmes Coupes d'Europe. Est-ce que ça change vraiment quelque chose pour toi sur le terrain, dans l'ambiance, dans...
Moi, ça change rien du tout, quoi.
Il faut toujours arrêter les buts.
Il faut toujours arrêter le ballon contre des adversaires qui sont de plus en plus forts.
Ah oui.
D'accord. Donc, ça veut dire que c'est un travail qu'on faisait bien avec Joël Bat. On observait bien les équipes adverses et on s'entraînait en fonction de ça. Tu ne t'entraînes pas de la même manière quand tu vas jouer une équipe anglaise que quand tu vas jouer une équipe italienne ou espagnole, quoi, en fait. Donc, mais on avait les réponses. Je crois qu'on l'a démontré. Hein.
Oui, et d'ailleurs, ça va sans doute donner envie aux plus jeunes supporters qui nous écoutent. Mais vous aviez éliminé le Real 2 années de suite. Et là, cette fois, vous éliminez le Barça en quart de finale.
Alors, Barça. Ben, je pense qu'à cette époque-là, le Barça, par rapport au Real, avait moins d'aura quoi, que le
D'accord.
Real. On a moins été gênés. Mais et puis bon, on avait beaucoup plus confiance en nous aussi. Hein.
Parce que là ça parce commence que... à devenir une grande équipe d'Europe, le Paris Saint-Germain.
Oui, parce que bon, il y avait on a éliminé le Real, mais on en a éliminé d'autres aussi. Hein.
Oui, oui, oui.
Il y a eu Naples, il y a eu ceci, il y a eu cela.
Il y a eu
donc,
Parme.
Parme, tout ça.
La grande
donc,
époque de Parme.
Voilà, où Parme commençait à vraiment se développer. Machin. Parme, ils avaient Buffon. Non, c'était pas Buffon encore, mais il était là. Ils avaient Stoïkov, ils avaient des internationaux italiens, ils avaient bon, la Corogne,
oui, la Corogne.
Qui cartonnait à ce moment-là, tout ça. Donc il y avait tout un parcours. Bon, je pense qu'on était. Alors je sais plus. Il faut revenir au début de la question. C'était
quand vous éliminez les grands comme ça. Vous...
Ouais. Et,
bah, en fait, il y a quelque c'est... chose à cette époque-là. Où on a le sentiment que le Paris Saint-Germain... Alors, vous allez être éliminé par le Milan AC, mais ce n'est pas là que je veux en venir. Mais
c'est
qu'il y a quand même une force, une conscience de sa force qui est, que le Paris Saint-Germain avait à l'époque. Est-ce que c'était lié à vous, les joueurs? Est-ce que c'était lié à la façon dont vous étiez géré? Est-ce que c'était un tout?
Je pense que c'est un rouleau compresseur qui s'est mis en route au fur et à mesure. En fait, et qui a atteint son apogée en 96, quand,
oui.
quand on gagne. Et je pense que quel que soit l'entraîneur qui aurait été là, ça aurait été pareil. C'est parce qu'en fait, la génération de joueurs qui était là, elle avait besoin de gagner des titres.
Mais c'est marrant ce que tu viens de dire. Tu utilises le mot « elle avait besoin ».
Oui.
Comme si c'était un besoin vital.
Ben oui, parce qu'en fait, on est tous des internationaux,
oui.
Mais on a très peu gagné, on a très peu de titres. On est, à part les Brésiliens, les Ricardo, les Valdo, les Rai, qui ont une autre stature que nous, mais nous, on n'a rien gagné, moi, avec Brest, avec Lille, avec Lens.
Là, tu viens de gagner une Coupe de France et un titre de champion de France, mais tu veux plus. Ça ne suffit pas.
C'est un petit peu logique. Quand on est dans l'une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe du pays, dire qu'on doit gagner au moins un titre par an. Quoi. Donc ça me paraît logique. Et puis surtout, là, tous les ans, on joue la Coupe d'Europe. Donc, pourquoi pas.
Donc c'est décevant de finir troisième, puisque cette année-là, vous finissez troisième.
Oui. Qu'est-ce qui gagne le championnat cette année-là? 95? C'est pas le truc de
Auxerre. C'est pas Nantes?
Ou c'est Nantes? C'est pareil. Il y a un ou deux titres que l'on perd en cours de route. On ne doit jamais perdre.
Est-ce que ça console de se dire que vous gagnez quand même deux coupes? La Coupe de France contre Strasbourg et la Coupe de la Ligue contre Bastia?
Non, parce que c'est des doublés ou des triplés que tu dois faire.
Donc ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu as gagné la Coupe, une fois ou deux, c'est bon.
Oui, voilà. C'est une coupe. Ça, tu en...
Le championnat,
c'est autre chose.
Le championnat, c'est une régularité, c'est une continuité. Ça veut dire que tu as été le meilleur de la saison. Ce n'est pas du tout pareil. Quoi,
en fait. Pour la saison 95-96, tu es capitaine.
Mm-hmm.
Est-ce que le brassard, le bout de tissu, ça compte vraiment? Ou est-ce que toi, de ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, en fait, tu as toujours été capitaine dans l'âme?
Mais ça compte oui et non. Disons qu'il en faut un et officiellement, je veux dire, il y a un représentant parce que le règlement veut que il y a tout ça. Donc, mais dans un groupe, il y a toujours des tauliers, comme on dit. Quoi. Il y a toujours des gens qui sont plus responsables que d'autres.
Tu aimais prendre la parole dans le vestiaire?
Ça a toujours été ça, mon cas, quoi. En fait, depuis tout jeune. En fait, quand j'étais gamin, c'est moi qui organisais les matchs de foot à la maison. Donc, j'ai souvent été capitaine et chef de bande, je dirais. Quoi.
D'accord. En fait.
Donc, je n'ai pas besoin forcément d'un brassard. Quoi.
Vous faites la course en tête, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, mais vous finissez deuxième. Est-ce que ça, c'est pas...
Oui, parce qu'on finit deuxième, parce qu'on fait n'importe quoi à un moment donné, parce qu'on perd des points bêtement, parce que telle ou telle chose, et ça, c'est pas normal. Donc, ça énerve.
T'es en colère à ce moment-là?
Ben oui, parce que je ne sais plus quelle année.
95-96.
Oui, là, c'était Nantes. Alors, Nantes est fait une année exceptionnelle. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Mais nous, on n'est pas réguliers, quoi, en fait. C'est ça, notre problème.
Mais est-ce que vous n'avez pas la tête ailleurs? Est-ce que vous n'avez pas la tête à la Coupe d'Europe?
Non, on n'a pas la tête ailleurs.
C'est pas une bonne excuse?
On n'a pas la tête ailleurs. On a l'habitude de la Coupe d'Europe.
C'est vrai.
Donc... maintenant, on a l'habitude. Ça fait un petit moment, tout ça. On est avec un groupe mature. Non. Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, il nous a manqué d'expérience dans l'environnement, dans la gestion de notre environnement. Il a manqué d'expérience pour pouvoir aller franchir un cap. Le cap n'était pas forcément...
C'est ce que tu dis, il fallait du temps encore.
Il faut un minimum de temps pour maîtriser certains aspects du haut niveau. Et notamment, ton environnement, ton staff et tout ça, il faut que tout le monde ait de l'expérience, ait un vécu et partage ça pour qu'à un moment donné, ça aille plus loin. Donc,
mais c'est quand même une année où vous gagnez la Coupe d'Europe. C'est la Coupe des Coupes.
Oui. Mais on la gagne, on la mérite parce qu'on élimine toutes les équipes Parme, la Corogne, machin, tout ce qui arrive, Glasgow, tout ce qui arrive. Avec le parcours européen qu'on avait eu avant, cette année-là, il était logique d'aller au bout.
Est-ce que tu peux nous raconter l'émotion ce jour-là de gagner une Coupe d'Europe?
C'était un peu particulier pour moi parce qu'il y avait mes parents. En fait, il y avait mes parents, mon père, ma mère.
C'était à Bruxelles.
Frères et sœurs. Donc, c'est toujours émouvant de gagner devant sa famille, devant. On est fiers, on est contents, on est sur le toit de l'Europe. Même si c'est la Coupe des Coupes, mais quel que soit ce qu'on peut dire, tout ça, tout le monde ne la gagne pas.
Non, puis il faut gagner, c'est...
Bon, et on a même fait plus que ça, on a confirmé, puisque l'année d'après, on est arrivé encore en finale, quoi, en fait. Donc,
Là, tu es champion de France, champion d'Europe. Mm-hmm. On est à la fin de 96. Est-ce que tu considères que tu es à l'apogée de ta carrière, de tes capacités? On est à 2 ans de la Coupe du Monde en France.
Ouais,
et
96.
Et dans l'idée des gens, on est quand même loin de la gagner, là, en 96.
Oui, ça, c'est vrai. On en sait quelque chose, quoi. Mais bon, 96, je fais le championnat d'Europe aussi avec l'équipe de France. Et c'est vrai que footballistiquement, je franchis un cap encore.
D'accord.
J'ai pas tout donné là, quoi. Parce que quand tu fais une compétition internationale, tu prends encore une autre dimension. Parce que la pression, elle est encore plus haute, tu vois, je veux dire. Et après, quand tu redescends au championnat,
mais finalement, c'est sympa le championnat. Ouais, c'est tranquille.
Voilà, quoi, c'est ça.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque de se déconcentrer? Non, c'est pas possible.
Non, parce que, bon, si tu veux, il y a 98 derrière, il y a tout ce challenge-là. Donc moi, je... Non,
et puis, tu sais qu'il faut.
Et puis je suis bien, quoi. Physiquement, je suis bien.
Changement d'entraîneur pour la saison 96-97. Là, c'est le duo Ricardo-Joël Batz. Ça se passe comment pour toi? Ricardo, tu as joué avec. C'est pas étrange d'avoir. Tu as joué avec. Alors, et en plus, t'as cette âme de leader. Donc, forcément, même si Ricardo, c'est quelqu'un qui sait mener les hommes, toi, t'as dû forcément lui donner des conseils à des moments où, en tout cas.
J'ai dû discuter, échanger avec lui. Pas beaucoup, parce que. On n'a pas besoin de beaucoup parler pour se comprendre, en fait. C'est pour ça que ça fonctionnait bien sur le terrain. Donc moi, je savais comment il était, je sais ce qu'il attendait d'un joueur, donc je lui donnais. Mais à un moment donné, j'ai dû parler avec lui et lui expliquer que tout le monde n'était pas comme lui. Et que par moment, il fallait que lui, en tant qu'entraîneur, il rentre dans la tête du joueur, en fait.
Mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un des problèmes parfois quand un joueur devient entraîneur rapidement. Il y a cette exigence. Ricardo, c'était un tel joueur. C'est quoi? C'est qu'il il aimerait que tous les joueurs aient sa rigueur et sa façon de penser et...
C'est pas qu'il aimerait. Il considère que...
Oui, mais oui.
Mais c'est pas le cas.
Mais non, forcément. Chacun en plus a sa personnalité. Voilà. Chacun a son niveau, son
voilà,
moment de forme.
C'est ça. Et je pense que c'est ce qui lui a manqué. C'est-à-dire de savoir transmettre... Ce que lui, il était sur le terrain, la rigueur qu'il avait, le coup d'œil, tu peux pas transmettre ton coup d'œil, Ricardo, c'était un mur, quoi, en fait. Donc ça, je pense qu'il a eu du mal à le transmettre. Mais moi, j'avais cette relation avec lui qui faisait qu'on n'avait pas besoin de se parler, quoi. Avec des gestes, avec des trucs, on se comprenait. Il y avait une intelligence footballistique qui était extraordinaire avec ce monsieur, quoi, en fait. Donc, mais je pense qu'il n'a pas su, en tant qu'entraîneur,
oui, c'est très difficile de
faire le lien et exprimer ça auprès de ses joueurs, quoi.
Et est-ce que toi, à des moments, ça t'est arrivé d'avoir cette exigence et de te dire, mais il ne comprend pas ce que je lui demande?
Non, je parlais pas comme ça. Enfin, c'est peut-être pas avec Ricardo, peut-être avec d'autres.
non, mais
avec d'autres, mais pas
voilà.
Forcément.
Non, parce qu'il y a bien des moments où, de toute façon, t'es obligé de diriger ta défense ou tu.
Ah oui, non, mais ça, de toute façon, comment.
Parce que tu as quand même un sacré caractère. Enfin, tu avais et tu as encore un sacré caractère.
Oui, enfin, je sais pas ce que.
Mais c'est nécessaire. Hein,
il faut avoir du caractère de toutes les façons. Et un gardien, c'est un commandant, c'est un chef, c'est un patron. Donc, c'est ce qu'on attend de lui. Si mes gars sont bien placés, ben c'est des dangers en moins. Donc, c'est tout bénef pour eux, c'est tout bénef pour moi, quoi. Donc, non, à ce niveau. Et de toutes les façons, depuis que j'ai démarré ma carrière, et même d'ailleurs en Guyane, moi, on m'a toujours appris, c'est comme ça qu'on m'a formé aussi, on m'a toujours appris à commander, parce que c'est toi qui es derrière, c'est toi qui vois, donc les gars doivent réagir à ta voix, donc il n'y a pas de souci. C'était à moi à bien transmettre les choses, donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître ses partenaires. Par exemple, je sais que j'ai des partenaires, si je leur criais dessus, c'était fini. Hein. Ah, c'était fini, quoi. C'était soit l'embrouille, soit l'autre, il pétait un câble. Bon. Et puis j'en avais d'autres qu'il fallait que je réveille, parce que
le mec était
dans la lune, il y en a qui étaient dans la lune, quoi, en fait, quoi. Des défenseurs, en plus, quoi. Donc, tu peux pas être de l'autre côté alors que le ballon, il est là, t'es à l'autre bout, là-bas, ou enfin, bon. En fait, Une équipe, c'est 11 titulaires, donc c'est 11 caractères, c'est 11 fonctionnements différents. Et pour que ce soit une vraie équipe, il faut que tout ça fonctionne à l'instant, quoi. Je dirais même à l'instinct, quoi, en fait. Donc, c'est... voilà, donc c'était important pour moi de connaître mes partenaires, de savoir qui ils étaient, de pouvoir, donc d'aller vers eux autant que possible. Donc de les réunir pour pouvoir échanger, donc que ce soit des fois dans la chambre, que ce soit à travers un repas qu'on allait faire dans tel ou tel resto, tout ça, parce que je dis bon, ben les gars, un plébosien, quand ils sont arrivés, il a fallu les intégrer, il a fallu, quand je me suis aperçu de certaines choses, de certains manquements au niveau du club et tout ça, donc j'ai réuni tout le monde, allé au resto, je dis oh, les gars, c'est à nous de faire le boulot, hein. Donc d'intégrer tel, il y avait Deli Valdés aussi qui avait quand même quelques soucis à un moment donné d'intégration. Donc tout ça n'était pas facile, mais quand tu arrives à le faire, bah, derrière, sur le terrain, tu déroules. Hein.
97-98, le Paris Saint-Germain recrute un nouveau gardien. Mmh. Et ça, on le prend comment? Parce que je me souviens dans ce que tu nous as expliqué, que quand on voulait, quand c'était la fin de la carrière de Joël Batz, on avait attendu avant que tu viennes. Là, ouais. Le Paris Saint-Germain recrute un autre gardien et tu te dis quoi? Après tout ce que j'ai fait?
Et n'attends pas que je sois parti. Bon, c'est un truc un peu particulier qui n'a pas marché, qui n'était pas bon, quoi, en fait. Mais bon, comme il y avait des nouveaux dirigeants, je crois que c'est Claude Leroy qui est arrivé à ce moment-là, machin, tout ça, que j'avais une personnalité qui pouvait les déranger dans le vestiaire. Donc,
mais tu gérais tout, en fait. Enfin, tu gérais, si tu viens de dire, tu gérais l'intégration, tu gérais le...
Ben oui,
c'est une pierre angulaire, là. C'est...
Ben oui, donc... je vais même te dire que j'avais même proposé aux dirigeants de reprendre l'équipe à un moment donné, quoi.
D'accord.
Quand ils ont sorti Arthur Georges et après...
Oui, quand il y a eu l'enchaînement de trois entraîneurs,
ouais,
dans la saison.
Ils ont mis Arthur Georges, après ils ont sorti Arthur et ils ont mis Bergerot.
C'est Philippe Bergerot qui reprend.
Mais il y a un moment donné où j'aurais dit, il restait 10 matchs, j'aurais dit, je ne peux pas faire... Ah oui, non, il y a eu Giresse.
Arthur Georges.
Dans la même année.
Dans la même année, sauté, et Philippe quoi. Bergerot.
Bon. Et j'aurais dit, il reste 10 matchs, j'ai dit, je ne peux pas faire pire que ce qui était là, donc je connais l'équipe, je connais les joueurs, je les maîtrise. Ça a dû leur faire peur, quoi, très sérieusement. À Jean-Luc Lamarche et tout ça, à l'époque qui était là, et l'année d'après, je vois, ils appellent...
Christophe Revault.
Christophe Revault, qui malheureusement est décédé entre-temps, paix à son âme, et qui s'est retrouvé... au milieu d'une guerre, quoi.
Oui,
en fait,
donc lui, il était juste, enfin, voilà.
Il s'est retrouvé au milieu, moi j'étais encore
et
là.
Et toi, tu t'entraînes à part. Tu décides de t'entraîner à part à ce moment-là.
Ouais, bon, bah,
mais
moi,
oui,
j'ai...
Enfin, c'est...
Mais moi, je suis censé ne plus être là, quoi. Mais bah, je suis encore là, je suis sous contrat encore. Donc, bon, et il y a cette histoire de suspension aussi, et tout ça. Bon, donc moi, je reprends l'entraînement et je m'entraîne après normalement, en fait. Et bon, voilà. Et après, c'est là que je pars après
à West Ham. À la mi-saison.
En fait, au mois de décembre.
C'était quoi? C'est bon, je vais aller respirer ailleurs?
C'était j'ai besoin de jouer parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, quoi.
Oui.
Donc, c'était... voilà. Et après, c'est vrai que... Mais c'est vrai qu'il y a une période délicate avec le club parce qu'on... On n'a pas réussi à s'entendre sur un renouvellement de contrat et tout ça. Et moi, ça m'a contrarié, quoi, en fait. Et que, après, derrière, qu'on vienne me... Enfin, moi, j'avais rien contre Christophe Revault.
Oui, bien sûr.
D'une part, humainement, déjà. Mm-hmm. Et sportivement, je pense qu'il n'y avait pas photo. Donc, je n'étais pas inquiet, quoi.
De ce oui, je comprends.
De ce point de vue-là, je n'étais pas inquiet, quoi. Mais je voyais bien que... Bon, ça n'allait pas vraiment dans le bon sens, parce que, ben voilà, les gens qui étaient là-haut aux affaires, je les connaissais, la marche, Bergerot, je connaissais, je les ai vécus, que ce soit
oui.
À Lille, que ce soit
et
à
puis,
Lens.
Oui, Philippe Bergerot, tu le connais depuis longtemps.
Depuis le début de ma carrière, donc je sais où ça... D'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps, hein. On a bien vu, mais bon.
Bah, c'est un peu comme un couple qui fait une pause quand tu pars en Angleterre, parce que tu reviens à Paris dès la saison suivante, et quand tu reviens, Tu reviens avec une étoile sur le maillot de l'équipe de France, tu reviens, t'es champion du monde. Mm-hmm. L'effectif a changé. Est-ce que tu reviens dans un cadre qui est complètement différent de celui que t'as quitté Déjà, est-ce que dans ta tête, ça a changé quelque chose d'être champion du monde? On connaît hein, l'histoire de la Coupe du Monde, mais c'est ta Coupe du Monde. Mais tu es champion du monde.
Oui, mais c'était, encore une fois, c'était mon objectif en démarrant. Mm-hmm. C'est mon objectif.
Sur la plage en Guyane.
Et mon rêve, quoi, en fait. Donc, voilà, moi, c'est bon, j'ai ce qu'il...
Les gars, je suis champion du monde.
C'est bon. Et je reviens à Paris pour finir mon histoire avec Paris. Mm-hmm. Je peux aller en Turquie notamment.
D'accord.
Je peux ouvrir une porte là. En fait, c'est Tafarel qui est allé à l'époque. Mais Galatasaray était déjà venu avant que j'aille en Angleterre et m'avait demandé d'attendre parce qu'en fait, ils avaient trop d'étrangers. Donc, ils m'avaient dit en fin de saison, on fera le ménage, on vient te récupérer. Ils sont venus. Mais moi, j'ai fait le choix de revenir à Paris et de finir mon histoire avec le PSG, quoi. En fait, j'estimais que mon histoire n'était
pas terminée. Et puis, tu avais encore des choses à dire.
À dire, à faire, quoi. Mm-hmm. De toute façon, ouais. Mais bon, voilà, hein, j'ai fait...
T'es drôlement attaché à ce club. À l'époque, en tout cas, c'était...
Oui, encore aujourd'hui. Comme je te dis, le club, il est plus jeune que moi.
Je l'ai vu
naître. À l'époque, il y a des joueurs antillais, tout ça, qui ont joué là-bas, des Jacky Laposte, machin, tout ça, des gars... Adams et tout ça, enfin, des gars que quand j'étais gamin, je, voilà, quoi, c'était méga, quoi. Donc, c'est aussi le club des Antillo-Guyanais, en fait, le PSG.
D'accord.
Oui, il y en a beaucoup qui sont pour Marseille, qui sont machin, tout ça, mais dans la région parisienne, il y a beaucoup d'Antillais, tout comme ça. Il y avait une tribune là près d'Auteuil où tous les Antillais étaient là et tout ça, donc oui, j'ai un lien particulier avec ce club-là. Ouais.
Quand tu reviens, le club, il a fait des travaux au centre d'entraînement. Et bon, tu le sais que le Paris Saint-Germain va avoir un nouveau centre d'entraînement. Et je me permets de redire tes mots pour montrer ta clairvoyance à l'époque. Ce n'était pas forcément facile à entendre pour les dirigeants. Au camp des loges comme au parc, nous ne sommes pas complètement chez nous. Le PSG n'a pas de vrai patrimoine, pas de fondation solide, même si je suis conscient des difficultés de devenir propriétaire de ces endroits. C'était impossible pour des dirigeants d'entendre des choses comme ça, même si c'est vrai.
Ah, j'ai fait pire que ça. Tous les travaux du camp des loges, là, c'est parce que je me suis blessé à mon genou à un moment donné, que j'avais pas de... Il n'y avait pas de salle de musculation ni rien du tout, et qu'il fallait aller aux pyramides pour s'entraîner et tout ça. Un jour, j'ai pété un câble. Hein. Je fais un article. Fin de saison, ils ont tout cassé, là. Ils ont payé une machine 400 000 francs à l'époque, le Cybex qu'il y avait là et tout ça, pour qu'on... Le matériel est toujours là, hein. Donc oui, non, je les ai obligés à aller plus loin. Parce que tu ne peux pas être professionnel au Paris Saint-Germain et avoir les conditions qu'on avait. Notre terrain d'entraînement n'était même pas droit. Il n'était même pas aux tailles réglementaires. C'est tout ça qu'on avait. C'est dans ça qu'on a fait toutes ces performances-là. Tout ça. Donc il arrive un moment donné où tu vois, tu donnes, tu te pètes et... Tu dois galérer pour pouvoir en faire des soins, pour voir le truc. Bah, moi, je n'ai pas supporté.
Quand tu es revenu au club, c'est Alain Giresse, l'entraîneur. On revient sur cette saison avec trois entraîneurs. J'ai l'impression que tu n'as pas grand-chose à en dire. C'est une saison compliquée. Vous finissez 9e. Ce n'est pas la place que tu attends, toi, pour le Paris Saint-Germain.
Bah non. Et puis avec deux entraîneurs virés en cours de route. Enfin bon... C'était un peu du n'importe quoi. Donc,
bon, après, j'essaye de voir le côté positif, c'est que l'année suivante, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a rien, donc vous êtes concentré que sur le championnat et vous finissez deuxième. Mais c'est la saison 99-2000, et c'est là que tu apprends que ton contrat ne sera pas renouvelé.
Ouais, bon, ils ont le droit, ils avaient le droit, hein, de toutes les façons. Hein. Mais ils l'ont fait pour de mauvaises raisons. Et c'est ça qui me posait des problèmes. C'est parce que, comme je disais précédemment, ces gens-là avaient peur pour leur place. Bon, c'est vrai qu'à cette période-là, il suffisait que je dise un mot et le vestiaire s'arrêtait. Hein. Donc, les choses étaient claires. Mais ce n'est pas quelque chose que j'utilisais, que j'utilisais.
À mauvais escient, oui.
Et encore moins dans le, contre le club, quoi, mm-hmm. en fait. Ça n'a jamais été ça l'objectif. Mais quelqu'un comme Jean-Luc Lamarche, qui était directeur sportif et qui me connaissait, qui m'avait vu à Lens aussi, et qui voit le travail que j'ai fait à Lens, parce que je suis passé qu'un an à Lens, ben, va demander aux anciens Lensois derrière, quoi, cette année-là, ce qui s'est passé, et derrière, comment leur quotidien a évolué. Ils n'ont rien compris, du jour au lendemain. Quoi. Ils n'ont rien compris. Donc, c'est parce que ben, j'avais le courage d'aller voir les personnes qu'il faut pour leur dire, voilà, votre club, il ne fonctionne pas parce que telle chose, telle chose, telle chose, si vous voulez que, machin, machin. Et c'est ce que je faisais avec le Paris Saint-Germain aussi. Donc ça manifestement, ça dérangeait certaines personnes.
Et tu étais en colère pour la finale de la Coupe de la Ligue face à Guignon ? Tu n'étais pas titulaire ?
Non, je n'étais pas forcément en colère. Hein. C'est eux qui ont fait leur choix, qui ont fait leur truc, quoi. Bon.
Ça ne s'est pas bien passé.
Le seul truc, que j'étais malheureux parce que je savais qu'on n'allait pas gagner, quoi. En fait. Parce que c'est moi qui gère l'équipe, quoi.
Mais ça, c'est incroyable.
Et je peux même dire que pendant le match même, j'aurais même pu intervenir. J'aurais même pu me lever à un moment donné et dire « je rentre ». J'ai failli le faire. Et dire « je rentre ». Moi, je sais qu'arrivé sur le terrain, on aurait changé la physionomie du match et on aurait gagné. Quoi. Mais comme ces messieurs, ils ont décidé que « allez-y, assumez ». Assumer. Mais bon, c'était n'importe quoi.
Il y avait quand même des gens qui le voyaient, notamment les supporters. Est-ce que tu te souviens de ton dernier match au Parc des Princes ?
Oui, ça, je suis obligé de m'en souvenir. Je ne sais même plus qui c'était en championnat, d'ailleurs. Quoi.
Montpellier.
C'était Montpellier. Si, si. Non, je m'en souviens.
Il y avait beaucoup...
La banderole, tout ça. Le truc, le pire, c'est le cop de Boulogne qui ne veut pas sortir du terrain, qui ne veut pas sortir du stade. Et il y a, comment il s'appelle, Jean-François Domergue qui vient me chercher. Mm-hmm. Après, au bout d'un moment, il dit « Bernard, j'ai besoin de toi. » Je dis « qu'est-ce qui se passe ?» et tout. « Ouais, mais les gars à Boulogne, ils ne veulent pas sortir. » Je dis « Ok, j'arrive. » Je suis allé leur parler, tout ça. Et puis...
C'est quand même au-delà des dirigeants, c'est une preuve d'amour inouï de la part du club, quand il se passe, de la part de tes supporters. C'était ton équipe, alors c'était tes supporters.
Ouais, c'est ce que je leur ai dit. J'aurais dit, vous savez, j'ai grandi grâce à vous, quoi, en fait. Parce que nos différences m'ont fait grandir aussi. Et apparemment, vous ont fait grandir aussi. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Et je pense que, globalement, ça s'est bien passé. C'est pour ça que le public, jusqu'à aujourd'hui...
Mais justement, est-ce que tu as conscience de la légende que tu es pour les supporters, pour ce club ?
Bon,
c'est gênant, peut-être, de s'entendre dire ça.
Non, c'est pas gênant. C'est pas quelque chose que je peux. Comment je vais expliquer ça ? Parce que c'est quelque chose que j'ai pu mesurer et que je peux plus ou moins mesurer.
Toujours
à travers
aujourd'hui, oui.
Les réflexions que j'ai, les ceci, les cela. Je ne veux pas dire que ce ne soit pas mérité, parce que si c'est comme ça, c'est parce que j'ai une relation qui n'est pas seulement une relation footballistique, quoi, mm-hmm. en fait, avec le Paris Saint-Germain et avec son public. Quoi. Donc, en fait, nous, notre génération, pareil, ça s'est accentué et prolongé avec l'équipe de France aussi. Moi, je suis justement de la génération qui a amené qui a décomplexé la France, en fait, psychologiquement.
Oui. Bah, oui,
on était un peuple de perdants. On n'avait jamais rien gagné, à part le handball, les Barjots. Mais le handball n'avait pas l'impact du football, déjà.
Que peut avoir le football, oui, 98 dans le foot français,
à cette époque-là. L'impact du football, l'impact de ce qu'on a fait, ça se mesure au nombre de points qu'a pris la bourse ce jour-là, quoi. Et ce jour-là, tous les Français et associés, d'accord, sont devenus champions du monde, sont devenus des gagnants. Ça a complètement changé la nature du française même en elle-même, quoi. Et ça, oui, ça, moi, j'en suis très très fier. Et PSG, c'est un peu la même chose aussi à l'échelle du club, quoi. Bon.
Et tu regardes encore les matchs du Paris Saint-Germain ? Tu vis en Guyane, est-ce que tu...
Bah oui, je les regarde des fois.
L'amour est plus fort que tout.
Non, moi, je suis un passionné de sport, de football en particulier, mais de sport d'une manière générale. Donc, le sport a toujours guidé ma vie. Moi, tous les soirs, je regarde un match de basket. Basket NBA, je suis sur le même créneau. L'athlétisme, d'une manière générale, je regarde le sport.
Il reste quoi en toi de tes années parisiennes? Qu'est-ce que ça a changé en toi?
Changé, je ne sais pas si ça a changé quelque chose en moi. Changé. Je ne sais pas si le Paris m'a changé.
Vous ne vous êtes pas changé mutuellement ?
Non, je pense qu'on s'est trouvé. Et je ne pense pas qu'on se soit... Et qu'on s'est, entre guillemets, bonifié. Enfin, pense qu'à la période où j'étais là, tous les ans, il y avait un titre au moins. Donc, et c'était une période où il n'était pas aussi facile que maintenant de gagner le championnat. Hein. On n'avait pas les mêmes effectifs, tout ça.
Vous vous êtes bonifié l'un l'autre, c'est bon.
Ouais, je pense qu'on s'est trouvé. En fait, on s'est trouvé et j'ai beaucoup d'affection pour le LOSC aussi, qui est en fait le LOSC et le PSG sont les deux clubs qui ont encadré ma carrière. Un où j'ai passé 8 ans où j'ai débuté et un où j'ai passé 8 ans où j'ai eu tous mes titres. Donc et entre deux, il y a les autres clubs, il y a les autres trucs, tout ça. Donc pour un passionné comme moi, faire une carrière de 20 ans, c'était un truc inespéré, c'était un truc maintenant je m'en rends encore plus compte en voyant tout ce que les gamins, en ayant fait moi-même un centre de formation, en voyant tout ce que les gamins doivent faire aujourd'hui pour arriver à être professionnel, je me dis moi j'ai eu de la chance, je l'ai été pendant 20 ans, je suis sorti de nulle part. C'est le discours que j'ai vis-à-vis des plus jeunes. Quand tu bosses, tu as ta récompense, quoi. Tu es récompensé obligatoirement, quoi, en fait. Moi, c'est ce que j'ai voulu laisser au club, dans les clubs où j'étais. Donc, l'image de quelqu'un qui était là pour le club, pour donner pour le club. Et puis, Paris, c'est aussi la ville, hein, attention. Paris, c'est le club, il y a le club, mais il y a aussi la ville. Moi, j'ai choisi aussi une ville. En fait, j'aurais très bien pu aller jouer ailleurs. J'ai choisi aussi une ville et c'était aussi stratégique, en fait, par rapport à la Guyane, mais par rapport à Paris. Et en fait, c'est paradoxal, hein, j'ai réellement découvert Paris en arrêtant de jouer, quoi, en fait. Parce que quand je jouais, je ne pouvais pas venir dans Paris, ce n'était pas possible. C'est pas possible. J'ai fait une ou deux fois et c'était pas gérable. Donc, je me contentais des Yvelines. Mais c'est après, en fait, que j'ai habité Paris et que j'ai pu réellement découvrir la beauté de cette ville. Et je serais pratiquement tombé amoureux. Donc,
vous vous êtes trouvé.
On s'est trouvé, quoi.
Bernard Lamalle, Paris Saint-Germain et Paris.
Voilà, quoi.
Merci beaucoup pour ces confidences,
Merci
Bernard.
À toi.
Merci.
Ça marche, c'est cool.
On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Histoire de Parisien. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à lui donner 5 étoiles. Merci beaucoup, à très bientôt.